Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
牧民南家正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Salomé Vio, mais aussi Antoine Dulster et Christophe Payet, réalisée par Nicolas Berger et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. On entame donc une nouvelle série, une série d'émissions dédiées à la montagne, de l'Himalaya au Caucase, la montagne objet de convoitise. Nous parlerons demain de sociologie du tourisme des neiges, mercredi des cimes des dieux, jeudi nous irons du côté de Sochi comme ailleurs, la ruée vers l'or blanc, mais aujourd'hui des frontières et des guerres. Si les montagnes ne représentent qu'une petite partie de la surface des continents, elles sont au cœur toujours aujourd'hui de nombreux conflits. Elles constituent souvent une frontière entre deux États, mais pas toujours, et beaucoup de ces montagnes continuent d'être des hauts lieux de conflictualité. C'est le cas notamment du côté du Cachemire ou du Caucase dont nous parlons ce matin.
Terskol, petit village d'éleveurs et station touristique au pied du mont Elbrouz.
Je suis dans la benne découverte d'un camion soviétique ex-militaire. Sur notre droite, le bâtiment du soviet, une petite masure peint à la chaux, assez banale. Tout cela dans un site absolument fabuleux, une vallée de Chamonix puissance 2 avec au-dessus des montagnes encore plus imposantes, encore plus déchiquetées que celles qu'on connaît dans les Alpes. Le bleu des séracs, le blanc des neiges sommitales, c'est superbe. Et ici, parce que c'est une vallée particulièrement arrosée dans la chaîne du Caucase, eh bien, il y a d'immenses pinèdes jusqu'aux neiges éternelles. Voilà, on passe maintenant devant l'Ushba, le sommet le plus complexe, le plus célèbre aussi dans le monde de l'alpinisme.
Extrait d'un reportage de 1990 tiré de cette émission L'échappée belle. On est dans le mont Elbrouz, situé dans le Nord Caucase, avec Marc Gius. Montagne, forêt, vaste étendue désertique. On trouve des paysages très divers, très variés dans cet immense espace montagnard. De la mer Noire à la Caspienne, le Grand Caucase s'étend sur plus de 1250 km, formant une barrière massive entre l'Europe et le Moyen-Orient. Les sommets dépassant en plusieurs points les 5000 mètres. L'Elbrouz culmine, lui, à 5642 mètres. Alors, si on pense parfois qu'elle constitue une séparation nette entre ce qu'on pourrait désigner comme le monde européen et le monde musulman, la réalité en fait apparaît un peu plus complexe dans ce Caucase, si la frontière entre la Géorgie et la Russie suit plus ou moins les quatre principaux cols de la région. Il n'en est pas de même tout du long de la crête montagnarde depuis plus de 20 ans, depuis évidemment la chute du bloc soviétique en 91. Ces régions restent des lieux de conflictualité où les violences éclatent régulièrement sur les lignes de démarcation entre la Russie et la Tchétchénie bien sûr, mais aussi du côté du Daghestan ou encore entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Du côté du Cachemire, dont nous parlerons également, la montagne est là aussi évidemment cruciale. Le glacier de Siachen, fut le théâtre de batailles emblématiques de ce conflit territorial. On en parlera tout à l'heure avec Christophe Gauchon. On parlera de la plus haute guerre du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis après ces deux exemples sur le versant du conflit interétatique, on s'intéressera peut-être à un autre aspect que peut revêtir la géopolitique des montagnes dans certains États. Les montagnes sont aussi des territoires historiques où se maintiennent de vieilles traditions politiques guerrières qui s'opposent au contrôle des autorités centrales. C'était par exemple le cas dans les montagnes kabyles, bien sûr, d'Algérie, au moment de la décolonisation. On en parlera tout à l'heure avec un bédéiste, Franck Giroux, scénariste de bande dessinée, auteur d'Azraïen, publié il y a maintenant une dizaine d'années. On le retrouvera tout à l'heure, mais tout de suite, pour commencer, du côté du Caucase, notre premier invité, c'est Jean Radvani. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Jean Radvani. Vous êtes géographe, professeur à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages sur ce Caucase, notamment le Caucase, le grand jeu des influences aux éditions du Cygne, mais aussi un atlas géopolitique du Caucase, Jean Radvani. Alors, je lisais dans l'introduction de votre livre Caucase, le grand jeu des influences, que votre intérêt pour le Caucase remonte à 1974. Ça vient d'un projet universitaire entre le CNRS d'un côté et l'URSS à l'époque.
Oui, mon directeur de recherche de l'époque, Jean Dresch, m'avait
convié à une formidable expédition française et soviétique, puisque c'était l'époque de l'URSS. 10 géographes français des Alpes, des Pyrénées, étaient allés visiter le Caucase, et ensuite 10 géographes soviétiques spécialistes du Caucase étaient venus en France. Et pour moi, ça a été l'occasion de découvrir le Caucase et de trouver mon terrain de thèse.
Oui, puis vous avez été vraiment marqué par cet épisode, semble-t-il.
J'ai été profondément marqué parce que le Caucase, de toute façon, tous les visiteurs du Caucase sont marqués par cette région et par ses peuples. Et ensuite, j'y ai passé quand même de nombreuses années, et je continue d'y aller tous les ans.
Alors faisons un peu de géographie, Jean Radvani. Ce Caucase, je le disais, évidemment, des montagnes, ça va de la mer Noire à la mer Caspienne. En fond, il y a deux Caucases, on a l'habitude de dire ça, disons un Caucase du Sud et puis un Caucase du Nord. C'est un massif montagneux extrêmement important, le plus élevé d'Europe. Et traditionnellement, on dit que finalement, c'est une frontière, en tout cas géographique, entre l'Europe et l'Asie ou entre l'Europe et le Moyen-Orient. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce que si on regarde par exemple du côté du Caucase Sud, si vous demandez à un Arménien ou un Géorgien, par exemple, ils vous diront qu'ils sont clairement européens.
Absolument. En fait, c'est une frontière, évidemment. C'est toujours relatif, ces frontières. Il y a une vraie barrière montagneuse. Le Grand Caucase constitue une vraie barrière montagneuse, surtout physique et climatique, parce que c'est un cas parfait de barrière climatique. Donc le nord est beaucoup plus froid, beaucoup plus enneigé, et le sud est protégé par cette barrière montagneuse. Donc il y a des climats d'abri, et c'est pour ça que la Géorgie en particulier, l'Arménie, c'est différent, puisqu'on est sur les hauts plateaux volcaniques du Petit Caucase, que les géographes appelaient le Petit Caucase. Mais donc il y a un climat d'abri en Géorgie et aussi en Azerbaïdjan, avec donc de la vigne, du thé, des agrumes, donc voilà.
Mais pour autant, le paysage n'est pas le même tout au long de cette barrière. On n'a pas un paysage homogène au nord et un paysage homogène au sud.
Non.
On a beaucoup de montagnes sur la partie occidentale, des parties peut-être plus désertiques du côté oriental.
On a une vraie barrière montagneuse très massive. Les cols, les plus bas cols du Caucase sont à 2400 mètres, c'est-à-dire beaucoup plus haut que le plus bas col des Alpes, qui est le Brenner. Donc vraiment, c'est une montagne plus élevée, plus massive, avec moins de grandes vallées qui la pénètrent. C'est une barrière réelle, et en même temps, ce n'est pas vraiment une barrière pour les peuples. C'est-à-dire que les peuples montagnards du Caucase, traditionnels, y passaient ces cols, bien sûr, avec leurs troupeaux. Donc on avait des échanges, et depuis des millénaires, on a des échanges dans ces peuples. Ce qu'on appelle le Sud-Caucase, attention, c'est en fait des bassins, des grands bassins, des grandes plaines, un piémont très riche, qui a toujours suscité la convoitise. Ce n'est pas tellement la montagne qui suscitait la convoitise que ces piémonts, parce que c'est sur les piémonts qu'on trouvait la vigne, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est en Géorgie, c'est au pied du Caucase, qu'on a trouvé la plus ancienne trace de vinification, avec des jarres datées de 7000 ans. Donc c'est ça qui a attiré la convoitise. Plus les métaux, puisqu'il y avait de l'or, il y avait de l'argent, et quelques-uns de ces peuples montagnards, comme les au Daghestan, depuis très longtemps, sont passés maîtres en orfèvrerie, travaillent des armes blanches miellées d'or et d'argent, c'est-à-dire vraiment voilà, un travail traditionnel qui lui suscitait toujours l'envie des voisins.
Et pas une barrière entre le monde, j'allais dire, musulman et le monde chrétien, le monde européen et le monde moyen-oriental. C'est justement pas ça.
Pas du tout, parce que le Nord-Caucase est partagé, qui est russe actuellement, donc qui fait partie de la Fédération de Russie. À l'ouest, vous avez une dominante absolue des Russes, qui sont donc évidemment chrétiens. À l'est, il y a une dominante des musulmans, les Tchétchènes, les Daghestanais. Mais entre les deux, vous avez les Ossètes, qui eux sont un peuple iranien, de langue du groupe iranien, qui est un peuple montagnard aussi, depuis très longtemps installé au Caucase, et qui est chrétien. Et au sud, vous avez la division, en fait, elle est est-ouest et pas nord-sud, puisque les Géorgiens et les Arméniens sont chrétiens, et les Azerbaïdjanais sont chiites. Donc cette division, elle est beaucoup plus complexe. Et la barrière montagneuse n'est pas une frontière politique absolue, puisque une partie de l'Azerbaïdjan est sur le Nord-Caucase, une partie de la Géorgie va aussi, il y a des régions de Géorgie qui sont dans le Nord-Caucase, et une partie de la Russie avec Sotchi, et au sud de la montagne.
Mais comment expliquer ce qui est quand même, ce qui peut apparaître pour nous Français, une étrangeté? Nous, on est assez rassurés de voir que du côté des Alpes, voilà, c'est une barrière assez nette avec l'Italie, les Pyrénées, une barrière nette avec l'Espagne, et finalement, dans cet endroit-là, la géographie n'a pas pris le pas sur la politique, sur la géopolitique.
parce que c'est une terre de convoitises, de disputes, parce que vous avez des peuples qui sont de part et d'autre de la frontière, comme les Ossètes, parce que vous avez un empire, l'empire russe, qui s'est emparé de toute cette région et qui a tracé des frontières qui sont, au fond, des frontières de commodité, sans se soucier vraiment des peuples. Et Staline, qui a créé les frontières d'aujourd'hui, en réalité, en continuant, en maintenant une partie de celle qui avait été tracée par ses prédécesseurs tsaristes, Staline aimait jouer, si on peut dire, avec les peuples. Il en a déporté au Caucase, il les a séparés, il a modifié les frontières très, très souvent, très fréquemment. Et c'est une partie, c'est un des facteurs principaux de l'apparition des conflits à la fin des années 80.
Très grande diversité ethnique, très grande diversité linguistique aussi, on parle d'une centaine de langues.
Oui, encore que on dit toujours, enfin, au Caucase, ils ont pris l'habitude de dire que c'est la région, une des régions les plus diverses. En fait, on sait bien qu'il y a des pays d'Afrique ou du sud-est asiatique qui ont une diversité beaucoup plus grande. Mais enfin, en Europe, disons, c'est effectivement la région sans doute où il y a le plus de diversité ethnique.
Est-ce qu'on peut dire que cette diversité ethnique, au fond, elle est aussi à l'origine des conflictualité, l'histoire des conflits de la région ?
Oui et non. C'est-à-dire que on sait, puisqu'on a des textes des Grecs anciens, des historiens et des géographes grecs anciens, avec des listes de peuples, et on se rend compte qu'une partie des peuples qu'on trouve aujourd'hui dans la région, c'est-à-dire les peuples caucasiques, les vrais caucasiens, sont là depuis plusieurs millénaires. Et ce qu'on sait de, de l'histoire de leurs relations, c'est que c'est à la fois des relations de batailles permanentes pour les pâturages, pour les lieux de passage, avec des frictions, avec des dominants et des dominés. Et en même temps, une terre d'échange et de compréhension, finalement. De temps en temps, de graves conflits, des guerres. Ces conflits, je pense qu'une partie de ces conflits sont liés à l'intervention d'acteurs extérieurs, c'est-à-dire l'Empire ottoman qui s'étend, qui veut contrôler le Caucase et qui le contrôle effectivement en grande partie à la fin du XVIIIe ou XVIIIe siècle. L'Empire perse de l'autre côté qui essaye d'étendre son influence le long de la Caspienne et l'Empire russe qui, à partir du XVIIIe, descend vers le sud et va conquérir l'ensemble. Et c'est là qu'effectivement chacun choisit ses alliés, chacun choisit ses vassaux. Et c'est à ce moment-là que les conflits les plus graves vont apparaître, c'est-à-dire les guerres du Caucase, les guerres russo-turques d'abord, les guerres du Caucase ensuite au XIXe siècle quand les Russes veulent prendre l'ensemble de la région. Ça va durer presque 50 ans avec beaucoup de victimes. Et puis ensuite des épurations, des échanges de population entre l'Empire russe et l'Empire musulman. L'Empire russe envoie ses musulmans, l'Empire ottoman envoie ses chrétiens. Donc une espèce d'échange dès le XIXe siècle. Et puis la politique stalinienne qui va en rajouter une couche d'intervention de type colonial. C'est-à-dire comme on faisait, les nomades sont rejetés. Ces montagnards, on essaye de les déraciner de leurs montagnes parce qu'on n'arrive pas à les contrôler. Donc on les incite. Alors il y a ceux qu'on envoie.
On les incite à quitter leur montagne.
C'est-à-dire que dans les montagnes, c'est beaucoup plus difficile de contrôler. On sait que dans les années 30, la collectivisation soviétique, elle a été extrêmement difficile dans les montagnes, parce que ces peuples, en fait, ils avaient des habitudes de fonctionnement qui ne cadraient pas avec les pratiques soviétiques. Et en fait, quand on étudie réellement le fonctionnement de ces kolkhozes et de ces sovkhozes à l'époque soviétique, on s'aperçoit que c'est un peu comme une façade. En réalité, des pratiques anciennes perduraient sous couvert de planification soviétique.
Mais des lieux de résistance, finalement.
Ce sont des lieux de résistance. Et par exemple, la Tchétchénie, c'est une région de montagne de résistance permanente. Dès les années 20, dès les années 30, au moment de la soviétisation, ils ont résisté. Et donc, quand en 1944, Staline prend la décision de les déporter en Asie centrale, il prend comme prétexte la soi-disant collaboration de masse avec les armées hitlériennes. Mais en fait, il veut se débarrasser d'un peuple insoumis et qui va le rester.
Jean Radvani, à la chute de l'URSS, il y a trois nouveaux États qui sont créés, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, et puis on a les autres républiques qui restent au sein de la Fédération de la Russie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, le Karabakh, tout ce petit monde-là réclame, on va le voir, toujours un droit à la souveraineté, un droit à ses frontières qui ont été tracées sous le régime soviétique, ce qui provoque, on va le voir, des conflits gelés qui rejaillissent régulièrement. On voit très clairement que dans cette zone-là, au fond, hein, 20 ans après la chute de l'URSS, ces conflits frontaliers sont encore là, très prégnants, très forts, quoi.
Oui, il y a des situations diverses, naturellement, parce que un des conflits les plus graves, c'est la Tchétchénie. Il a été réglé d'une façon vraiment particulière, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a trouvé dans le clan Kadyrov, père et fils successivement, des Tchétchènes qui ont accepté de passer un compromis, une sorte de vassalité avec Moscou. Ils assurent la sécurité sur place. Ils ont assuré, le fils Kadyrov en particulier, la reconstruction de la Tchétchénie et la reconstruction de Grozny. Et en échange, on lui laisse faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on le laisse traiter ses opposants à sa façon. En l'occurrence, c'est assez sanglant. Et on lui laisse pratiquement instaurer une sorte de régime presque chariatique, pas tout à fait, mais dans une république de la Fédération de Russie, ce qui est quand même très singulier. L'Abkhazie et l'Ossétie, après la guerre de 2008, a été perdue pour la Géorgie, puisque actuellement, la Géorgie ne contrôle plus du tout ses territoires. La Russie les a reconnus, ce qui pose un problème sérieux, parce que reconnaître l'indépendance de territoires dans une région très conflictuelle, on ne sait pas où ça mène, parce qu'évidemment, à partir du moment où on en reconnaît un, pourquoi pas d'autres. Et donc on est dans une situation qui n'est plus, il n'y a plus de guerre, mais il y a une frontière tendue avec la Géorgie, qui ne reconnaît pas évidemment l'indépendance de ces deux régions. Et au Karabakh, on a une autre situation, puisqu'il y a un cessez-le-feu depuis 1994, qui est grosso modo respecté, mais il y a quand même pratiquement plusieurs dizaines de morts tous les ans. Donc on dit conflit gelé, mais c'est en fait une guerre limitée avec des tensions permanentes et pas de compromis. Pour l'instant, les négociations politiques pour trouver un compromis à propos des terres occupées par les Arméniens sur le territoire azerbaïdjanais n'avancent pas.
Oui, je regardais, Jean Radvani, l'actualité du côté de ce Haut-Karabakh, fin octobre, donc c'est il n'y a pas si longtemps, l'Arménie avait annoncé la mort d'un de ses soldats tués par des forces azerbaïdjanaises. On est là dans le nord-est de l'Arménie. Trois semaines plus tard, c'était l'Azerbaïdjan qui accusait l'Arménie de vouloir installer des réfugiés syriens dans cette région-là. Donc on voit qu'en effet, le conflit est toujours là, latent, fort.
Oui, de part et d'autre, aussi bien en Arménie qu'en Azerbaïdjan, c'est vraiment une question sensible, une question identitaire. Chacun revendique historiquement ce territoire. Et pour les uns et pour les autres, c'est un territoire qui a une signification profonde, tout simplement parce que, en réalité, depuis des siècles, c'était deux populations mêlées. Et naturellement, alors, on connaît bien les origines du conflit. C'est une décision de Staline qui, contrairement à des engagements précédents, a donné ce territoire du Haut-Karabakh, a créé une région autonome du Haut-Karabakh sous la tutelle de l'Azerbaïdjan, alors que la logique aurait été sans doute une situation d'équilibre réciproque, puisqu'il y a une autre région, le Nakhitchevan, qui a été donnée à l'Azerbaïdjan. S'il y avait eu un équilibre, probablement les choses auraient été différentes. Mais les deux régions ont été données à l'Azerbaïdjan. Bien, ça s'est passé dans les années 20. Et depuis, les tensions sont permanentes.
D'un point de vue stratégique, c'est une région importante ?
D'un point de vue stratégique, c'est pas réellement le Karabakh. La région est importante, mais le Karabakh n'arrive pas jusqu'à la frontière iranienne. Parce que la vraie frontière sensible à cet endroit-là, c'est la frontière sur l'Arax, le fleuve Arax, qui délimite la frontière entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran. Et la Turquie actuelle de l'autre côté. Et ça, c'est la frontière sensible. Le Karabakh n'y va pas. Par contre, les territoires occupés aujourd'hui par les Arméniens vont jusqu'à l'Arax, effectivement. Donc la problématique a un peu changé au cours de ce conflit. Mais effectivement, on a là une région extrêmement sensible, puisque, par exemple, du fait de cette guerre de 1991, 92, 93, l'Arménie est dans une situation de blocus. Et les seules voies de passage de sortie de l'Arménie, puisque le blocus, c'est du côté turc et du côté azerbaïdjanais, c'est la Géorgie d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc c'est une frontière sensible, bien sûr.
Et est-ce que ça pourrait évoluer? Parce qu'il y a quelques jours, là encore, je regardais l'actualité vendredi, à la mi-novembre, les présidents arméniens d'un côté, Serge Sarkissian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, se sont mis d'accord pour, je cite, pour faire avancer les négociations afin de trouver une solution pacifique sur cette région-là. Est-ce que trouver une solution, c'est une chose qu'on peut décemment imaginer?
Bien sûr, on peut imaginer, parce qu'on a résolu au Timor, on a résolu... Il y a des tas d'endroits où on trouve des solutions. Le problème, c'est qu'il faut une volonté politique de part et d'autre. Or, les dirigeants et arméniens et azerbaïdjanais alternent des déclarations de ce type, dont il faut se réjouir, parce que bien sûr... Il y a en principe des négociations qui se tiennent sous l'égide de l'OSCE ou avec l'aide des Américains, des Russes. Mais en même temps, ils alternent aussi des déclarations belliqueuses de part et d'autre. C'est-à-dire que le président Aliyev affirme de temps en temps, régulièrement, que s'il n'y a pas de solution négociée possible, il faudra envisager d'autres instruments. Et on sait que de part et d'autre, le budget militaire de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie est en plein essor. L'Azerbaïdjan a plus de moyens puisqu'il y a, il a des pétrodollars. Et des deux côtés, les deux pays s'arment, avec l'aide parfois de fournisseurs identiques, c'est-à-dire que les Russes fournissent principalement les Arméniens, mais vendent aussi de temps en temps à l'Azerbaïdjan. Les Occidentaux, d'autres, vendent aussi des deux côtés. Et donc, on a une ligne de fracture très compliquée.
Comment se positionne l'Iran là-dedans ?
L'Iran est dans une situation particulière, du fait qu'il est frontalier des deux pays. Il y a une population azerbaïdjanaise importante dans le nord de l'Iran. Et les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan sont tous les deux chiites. Mais les relations ont toujours été compliquées, du fait de revendications de l'Azerbaïdjan vers les populations du nord de l'Iran. Et donc, il y a une méfiance de ce côté-là. Par contre, paradoxalement, les relations entre l'Iran et l'Arménie sont bonnes parce que l'Iran n'a pas tellement de voisins amicaux et que donc il y a un intérêt réciproque et par conséquent, beaucoup d'échanges. On voit beaucoup d'Iraniens à Erevan. Il y a des échanges importants. Ils ont construit un gazoduc pour que l'Arménie, qui est en situation de blocus, puisse bénéficier d'importations de gaz de l'Iran. Donc voilà. Mais l'Iran ne joue pas de rôle politique dans le conflit. C'est plutôt la Russie, la France, puisqu'il y a un groupe de Minsk dont la France est coprésidente, et la Russie et les États-Unis.
Et puis ça doit répondre, j'imagine, à cette fameuse assertion « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ».
Oui, il y a deux...
L'Arménie étant...
Si vous voulez, il y a une sorte de clivage...
Je pense à la Turquie, hein, le trio Turquie, Iran, Arménie, bien sûr.
Oui, en fait, il y a une sorte de clivage. Le Caucase, à l'époque soviétique, le Caucase était un cul-de-sac. C'est-à-dire que la frontière sud du Caucase, avec l'Iran et la Turquie, était pratiquement fermée. Aujourd'hui, c'est une situation différente. Le Caucase sud est ouvert. Et en particulier, les Occidentaux, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, ont ouvert des voies pour sortir le pétrole de la Caspienne et le gaz, pour assurer des conditions de transport facilitées avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan, qui sont des alliés préférentiels des Occidentaux, de l'Union européenne et des États-Unis. Et la Russie, de son côté, a développé un autre axe, un axe nord-sud, ou essaye de développer, par l'Arménie, d'une part. Alors ça ne peut se passer que par avion ou par transit difficile. Et d'autre part, des propositions le long de la Caspienne. Et donc, on a une sorte d'alliance objective. Russie, Arménie, Iran, d'un côté. Et on voit bien ça dans différentes situations, y compris les négociations sur le nucléaire iranien. Et d'un autre côté, une alliance de l'Union européenne avec la Géorgie. La Géorgie vient de signer l'accord d'association, en tout cas le pré-accord. Et l'Azerbaïdjan, qui est aussi un allié à la fois des États-Unis et des Européens.
Ça aura évidemment un impact très fort, parce que quand on lit ces conflits avec cette grille énergétique, il faut se rendre compte que ces investissements-là, c'est des investissements de plusieurs milliers de dollars.
Milliards de dollars.
Milliards de dollars, évidemment. Ce qui créer évidemment des associations, des alliances très fortes à long terme.
Bien sûr, et l'Azerbaïdjan a joué un rôle important puisque le président Aliyev père, c'est lui qui, en 93, a réouvert, si vous voulez, les champs de pétrole azerbaïdjanais aux compagnies occidentales. Mais attention, on n'est plus en montagne du tout. On parle de, bien sûr, c'est le Caucase, c'est les pays du Caucase, mais c'est pas la montagne. Le pétrole, il n'est pas en montagne. Et même, par exemple, on a évoqué le rôle du pétrole dans le cadre du conflit tchétchène. Mais le pétrole, il est sur le Piémont. Et ceux qui s'en occupent, bien sûr, ce sont des Tchétchènes. Mais en fait, c'est pas vraiment des montagnards. C'est pas une logique. Le développement pétrolier ne touche qu'incidemment ou pas du tout le développement de la montagne. Parce que les montagnards, les villages de montagne, les activités de montagne, à part éventuellement quelques investissements touristiques, ne bénéficient pas de la manne pétrolière. La manne pétrolière, on en voit les effets dans les capitales. Et pas dans les régions de montagne. Même l'Azerbaïdjan, qui est donc riche en pétrole, il a des montagnes, puisque la montagne, elle va jusqu'à l'est. Le Bazar Diouzi, c'est le sommet qui est à plus de 4000 en Azerbaïdjan, qui domine donc la Caspienne. Les villages qui sont à son pied, malheureusement, eux, n'ont pas beaucoup d'effet des investissements pétroliers.
Comment se construit justement le réseau de transport, le réseau routier autour de ce Grand Caucase? Est-ce que, par exemple, le réseau du côté du Nord Caucase est, j'allais dire, quasiment indépendant de celui du Sud? Est-ce qu'on a des grands axes qui traversent justement
non,
la chaîne montagneuse?
Du fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une chaîne beaucoup plus massive que les Alpes et donc, par conséquent, très peu de cols, enfin, plus exactement, très peu de cols carrossables, disons. Parce que des cols, il y en a, mais c'est des cols que seuls les bergers passent à pied avec des troupeaux ou à cheval. À l'époque soviétique, non, à l'époque tsariste, il y avait une grande voie de traversée qu'on appelait la route militaire de Géorgie, qui reliait Vladikavkaz, en Ossétie du Nord, et Tbilissi, Tiflis, au sud. Cette route, elle passe par un col à 2400 mètres. À l'époque tsariste, ils avaient organisé un service un peu comme au Saint-Bernard, c'est-à-dire de veille, de sécurisation de cette piste, de façon à ce qu'il y avait des familles qui étaient payées pour déneiger ou pour secourir les voyageurs qui se trouvaient bloqués par les intempéries, par exemple. Aujourd'hui, c'est une route carrossable, mais elle a été à divers moments fermée par les conflits, en particulier le conflit tchétchène, qui n'est pas très loin, et le conflit ossète aussi. Et à la fin de l'époque soviétique, ils ont construit un tunnel qui passe un petit peu plus à l'ouest et qui rejoint l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, le fameux tunnel de Rokski, qui a servi en 2008, puisque quand le président Saakashvili a attaqué dans la nuit du 8 août Tsrinvali, la capitale d'Ossétie du Sud, c'est par ce tunnel que dans la nuit, les Russes ont envoyé leurs tanks. Donc c'est une route stratégique, mais c'est une route difficile, qui est parfois fermée l'hiver. Les avalanches et les intempéries. Donc il n'y a que ces deux routes, en fait.
Mais stratégique d'un point de vue militaire, est-ce que c'est stratégique d'un point de vue des échanges commerciaux?
Ça pourrait l'être, et ça l'a été. Par exemple, sous Shevardnadze, le plus grand marché du Sud-Caucase se trouvait en Ossétie du Sud, c'est-à-dire sur un territoire que les Géorgiens ne contrôlaient pas complètement, mais qui était extrêmement commode, parce que c'était justement au départ de cette fameuse route du tunnel de Rokski, et ce grand marché recevait des marchandises de Turquie, d'Iran, d'Occident et de Russie. Et donc on pouvait s'échanger, c'est par là que transitaient les produits alcooliques vendus par les Turcs en Russie, les agrumes, les fruits, les légumes, l'essence qui venait de Russie. Et cette route était vraiment une route commerciale très importante, même si, d'autant plus importante que les deux autres grandes routes, elles font le tour, elles contournent le Caucase, soit par la côte de la mer Noire à l'ouest, soit par la côte de la mer Caspienne à l'est. Sauf que la côte de la mer Noire est fermée à cause du conflit Apraz. Là, ça passe plus. On passe éventuellement quelques piétons, passent. Mais il n'y a plus de flux commercial réel, alors que c'était quand même très important à l'époque soviétique. Et du côté de la mer Caspienne, c'est compliqué. La frontière entre la Russie et l'Azerbaïdjan, on peut la passer, mais ce n'est pas facile. Ensuite, c'est long. Voilà. Donc cette route au 7 a eu, à un moment donné, une importance commerciale réelle. Aujourd'hui, elle est bloquée. Encore à cause du conflit.
Encore un tout petit mot, genre Advani. Donc l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, l'Adjarie, ces trois entités revendiquent, vous l'avez dit, on l'a dit, leur indépendance vis-à-vis de la Géorgie. Ce sont des régions qui, du point de vue des Nations Unies, vous le disiez, sont à l'intérieur des frontières internationales de la Géorgie.
Bien sûr. L'Adjarie, en fait, ne revendique plus vraiment. On n'en parle plus. Saakashvili avait repris le contrôle de l'Adjarie, qui était un peu autonomiste, mais qui n'a jamais demandé vraiment sécession. Parce que les Adjars, c'est un cas très particulier, ce sont des Géorgiens islamisés à l'époque où ils étaient dans l'Empire ottoman, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, ce sont des Géorgiens et il n'y a pas de revendication sécessionniste en Adjarie.
Oui, donc rien à voir avec l'Abkhazie qui, elle, par contre, a carrément même revendiqué son indépendance. Vous disiez en 1992, la Russie a reconnu, mais ce n'est pas la seule d'ailleurs, hein, j'ai vu, il y en a d'autres, le Nicaragua, le Venezuela, oui, et puis deux étrangetés, Nauru et Tuvalu. Là aussi, est-ce qu'on peut imaginer un règlement dans ce cas-là, ou est-ce que vous pensez qu'au fond, les choses ne vont pas évoluer, le statu quo, au fond, va risque de l'emporter pour encore de longues années?
Je pense qu'on va rester dans un statu quo pendant de longues années parce que, si vous voulez, les Abkhazes et les Ossètes, aujourd'hui, ne font plus confiance aux Géorgiens. Et ça, c'est un problème que les Géorgiens doivent surmonter. C'est-à-dire recréer, s'ils veulent récupérer un jour ces territoires, il faut qu'ils recréent un climat de confiance réel. Et ça, c'est pas gagné parce qu'il y a eu beaucoup de sang, beaucoup d'erreurs de la part des dirigeants géorgiens qui ont considéré un peu trop facilement que ces peuples étaient, au fond, chez eux, et que c'était à eux de décider depuis Tbilissi. Et ça va être très difficile à surmonter.
Des montagnes, des frontières et des guerres avec Jean Radvani. Après le Caucase, on va passer du côté du Cachemire. This song right here is dedicated to my people in Kashmir. Yeah. They say what you want from darkness, all you seek is light. But when the blood spills over, you will stand and fight. Threats of deceit, born around a world of plebiscite. By treacherous puppet politicians who have no soul inside. My paradise is burning with troops left loose with ammo. Who murder and rape, then hide behind a political shadow. Like a casino, human life is thrown like a dice. I will summarize atrocities to the resurrection of Christ. Jean Radvani qui me dit c'est pas très caucasien comme musique. Non, vous avez raison, Jean Radvani, c'est Cachemiri, c'est... MC Cash, figurez-vous, qui s'en prend dans ce morceau aux forces de sécurité indiennes qui oppressent les habitants de sa ville natale, Srinagar. On va parler de ce Cachemire depuis la première guerre indo-pakistanaise de 1947, qu'on appelle aussi la première guerre du Cachemire. Cette région montagneuse du sous-continent indien est partagée entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Bonjour Christophe Gauchon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur à l'Université de Savoie et vous êtes co-auteur de l'Atlas des montagnes, espace habité, monde imaginé avec Xavier Bernier dans la collection Autrement, chez Autrement, pardon. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots ce qui va déclencher cette première guerre du Cachemire et surtout, évidemment, la carte qui va en découler parce que c'est une carte qui ne va absolument pas régler les différents territoriaux entre ces trois pays que j'ai cités, l'Inde, le Pakistan et la Chine.
Oui, la guerre de 1948 au Cachemire, c'est une conséquence directe de l'indépendance de l'Empire des Indes en 1947 et de la façon dont se fait le partage entre l'Inde et le Pakistan, puisque chacun des souverains locaux traditionnels doit se ranger soit du côté du Pakistan, soit du côté de l'Inde. Et le Maharaja du Cachemire pense à cette époque-là pouvoir peut-être maintenir une certaine autonomie et donc ne choisit pas ouvertement entre le Pakistan et l'Inde. Et dans les mois qui suivent l'indépendance, il s'ensuit toute une série de troubles qui vont déboucher en 1948 sur une guerre, la première guerre indo-pakistanaise. Et à l'issue de cette guerre, le cessez-le-feu du 1er janvier 1949 établit une ligne de cessez-le-feu qui traverse le Cachemire du sud-ouest vers le nord-est, de part et d'autre avec des régions qui sont occupées respectivement par le Pakistan et par l'Inde, sauf que cette ligne s'arrête à environ 50 km de la frontière chinoise et laisse une partie qui n'est pas délimitée et que les guerres suivantes de 1965 et de 1971 ne délimiteront pas davantage. D'où un blanc, en quelque sorte, dans la carte des frontières du monde, une interruption et une sorte de no man's land entre l'extrémité de cette ligne de cessez-le-feu et la frontière chinoise.
Bah justement, venons-en, parce que évidemment, première guerre du Cachemire veut dire deuxième guerre du Cachemire, 1965, avec ce Pakistan qui lance l'opération Gibraltar. On a des soldats qui se déguisent, qui s'infiltrent de l'autre côté du territoire. L'Inde repère les infiltrés, les affrontements s'enchaînent. Et puis, on avance dans le temps, on arrive en 84, pendant quasiment une vingtaine d'années, jusqu'en 2003, l'Inde et le Pakistan vont s'affronter sur le théâtre de guerre le plus haut du monde. C'est comme ça souvent qu'on appelle ce conflit. On est sur le glacier de Sachien, 700 km², qui est administré par l'Inde et qui est revendiqué par le Pakistan. On est là à plus de 6000 mètres d'altitude. Et donc, sur ces 20 ans, 2003, c'est date d'une nouvelle signature, d'un nouveau cessez-le-feu. C'est là que les armées indiennes et les armées pakistanaises s'affrontent dans des conditions terribles. C'est-à-dire qu'il y a certaines périodes de l'année où on est à moins 50 degrés, quoi.
Oui, donc c'est dans ce triangle, en quelque sorte, dont le statut territorial n'avait pas été fixé à la suite des différents cessez-le-feu, qu'en 1984, l'armée indienne lance une offensive et va occuper cet angle entre la chaîne du Saltoro et la frontière chinoise, donc une grande vallée glaciaire occupée par le glacier du Siachen. Donc il faut se représenter un glacier qui est parmi les plus importants glaciers du monde en dehors des zones polaires. Un glacier qui fait environ 70 km de long, donc on n'est pas du tout à l'échelle de nos glaciers alpins, et qui en gros s'étage entre 3600 mètres pour sa terminaison aval jusqu'à 5700 mètres d'altitude. Et donc de façon très rapide, en 1984, les Indiens pénètrent dans cette vallée glaciaire et vont occuper à partir de ce moment-là ce glacier du Siachen jusqu'à la crête du Saltoro qui domine directement la région contrôlée par les troupes pakistanaises. Et effectivement, ce conflit, donc jusqu'au cessez-le-feu de 2003, va se dérouler dans des conditions tout à fait extraordinaires, puisque les Indiens vont tenir la ligne de crête du Saltoro. Donc il faut s'imaginer que les points les plus élevés de la chaîne culminent à plus de 7700 mètres d'altitude, et que trois cols échancrent cette chaîne du Saltoro, qui eux-mêmes sont entre 5600 et 5800 mètres d'altitude.
Mais en gros, comment se passent ces affrontements dans ce contexte-là? C'est quoi? C'est des guerres de position? On se regarde en chien de faïence?
Alors, ce sont des guerres de position, ce sont des duels d'artillerie, ce sont des affrontements qui sont limités à la saison estivale, parce que à la mauvaise saison, il n'est pas possible de tenir des positions si hautes. Donc, Pakistanais d'un côté et Indiens se replient sur des positions entre 3500 et 4000 mètres, et puis à la belle saison, remontent tenir ces positions hautes. Et ce sont pour l'essentiel donc des duels d'artillerie. Il n'est quasiment pas possible de mener des assauts d'infanterie à cette altitude. Hein. Et ce sont surtout des conditions climatiques, niveaulogiques, qui rendent le cantonnement des troupes absolument intenable.
Pourquoi est-ce que ce glacier est important d'un point de vue stratégique? Même question finalement tout à l'heure avec Jean Radvani. Pourquoi est-ce que c'est important ce glacier? Parce qu'il n'y a pas grand-chose.
Alors le glacier lui-même est un angle mort. Hein. Ce n'est pas le point central de la conflictualité entre l'Inde et le Pakistan. Il y a d'une part un aspect d'opportunité en quelque sorte, puisque la frontière n'étant pas définie, il y avait la possibilité d'avancer un pion de ce côté-là. D'autre part, il est exact que le triangle occupé par l'Inde depuis 1984 contrôle le débouché d'un col important qui est la Karakoram Pass sur la frontière chinoise. Puisque souvent on décrit le conflit autour du Siachen comme un conflit essentiellement entre l'Inde et le Pakistan, ce qui est exact, mais il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il y a un troisième larron dans cette affaire qui est la Chine. Et on est sur une frontière le long de laquelle plusieurs secteurs sont contestés, en particulier des secteurs qui ont été remis en quelque sorte par le Pakistan à la Chine pour impliquer la Chine dans le conflit et qui restent revendiqués par l'Inde. Or, le débouché sud de cette Karakoram Pass débouche en quelque sorte à l'aval de la vallée du Siachen.
Parce que s'il y en a un dans les trois qui ne revendique rien, c'est bien la Chine précisément qui occupe en fait les territoires qu'elle revendique et qui donc de fait n'a pas de revendication, quoi, parce qu'elle occupe ses territoires à elle.
Voilà, d'une part, à l'ouest de ce col du Karakoram, la vallée du Chaksam, et puis à l'est, une région très importante qui est la Xiaxin, et qui reste revendiquée par l'Inde, mais administrée de fait par la Chine.
Aujourd'hui, il y a des discussions entre ces acteurs pour essayer de régler le différend territorial.
Alors, depuis le cessez-le-feu donc en 2003, il y a eu toute une série de cycles de négociations entre les Indiens et les Pakistanais. Les derniers à ma connaissance en 2012, qui n'ont pas débouché sur un règlement de ce conflit. Les Indiens tenant à maintenir leur position sur le Xiaxin et les Pakistanais faisant prévaloir une position qui irait vers la démilitarisation.
Finalement, c'est un conflit qui est quasiment très simple, Jean Radvani, quand on regarde par rapport au Caucase.
C'est peut-être plus simple dans la mesure où il y a moins,
d'acteurs.
Il y a moins d'acteurs, mais... C'est toujours difficile à régler.
Merci beaucoup à tous les deux. On va passer du côté de l'Algérie, de la Grande Kabylie. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Vous restez encore une petite dizaine de minutes, Jean Radvani et Christophe Gauchon. La Kabylie, donc située dans le nord de l'Algérie, à l'est d'Alger, une région de montagne assez densément peuplée, entourée de plaines littorales à l'ouest et à l'est, au nord la Méditerranée bien sûr, et puis au sud des hauts plateaux. Bonjour Franck Giroux.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes scénariste de BD, auteur notamment de cette BD que j'ai sous les yeux, Azraïen, qui avait été publiée en 99, je crois. Alors, je vais résumer en quelques mots, peut-être, l'histoire. On est en pleine guerre d'Algérie. On a des militaires qui se rendent sur les montagnes kabyles à la recherche d'une vingtaine de soldats disparus de ce groupe mobile de sécurité. Azraïen, c'est le nom utilisé par les kabyles pour désigner l'un, justement, de ces soldats, le lieutenant Messonnier. Et donc, dans cette quête, ils vont s'en prendre violemment à la population locale, persuadé qu'elle les a pris en otage. On va de village en village, on menace, on maltraite les kabyles, on brûle les villages. Alors on ne va pas révéler complètement la fin de l'histoire, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les kabyles n'y sont pour rien. Franck Giroux, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être en quelques mots comment est né ce projet qui a mis du temps à germer, ça commence en 89 et ça met quasiment 10 ans à aboutir.
Très longtemps par rapport à ce qui se fait d'habitude, ce que je fais d'habitude. J'ai une idée en quelques jours ou quelques semaines, j'écris le synopsis et un an ou deux ans après, il y a un album. Et là, entre le moment où j'ai décidé d'écrire Azraïen, il s'est écoulé 10 ans, je suis tombé d'abord sur les carnets intimes de mon père qui a fait la guerre d'Algérie, qui était un appelé. Et avec mon père, avec lequel j'avais peu de relations, je le voyais une fois par an. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, parce que ces carnets étaient extrêmement émouvants. J'ai découvert une facette de mon père que je ne connaissais pas. Mon père est un ouvrier, donc il n'a pas d'envolée lyrique dans ce qu'il raconte. C'était factuel, c'était précis, mais c'était extrêmement émouvant. Il était accompagné de tas de photos qu'il avait prises avec un petit appareil en noir et blanc. Et à partir de ce moment, j'ai commencé... D'abord, j'ai interrogé mon père, bien sûr, qui n'avait jamais, contrairement à pas mal d'autres, mis un voile pudique sur ce qu'il avait vécu là-bas, mais qui ne s'était pas non plus étalé outre mesure. Là, il m'a raconté pas mal d'anecdotes plus précises. Et ensuite, j'ai commencé à interroger d'autres appelés. J'ai interrogé des soldats d'actifs, j'ai interrogé des pieds noirs. Je suis tombé sur des membres du BEL, du Bureau d'études et de liaison, qui était un service de contre-espionnage à l'époque. Et j'ai terminé cette série d'interviews par un repérage sur place pour retrouver des gens du FLN, aussi bien des combattants que des instructeurs, des simples félagas, comme on dit, et des officiers. Et ce fut un moment assez émouvant et parfois difficile, puisque j'y suis suis allé en pleine guerre civile, c'était en 93. Et j'avais déjà écrit mon synopsis, mais pas encore le scénario. Et au retour de cette mission de repérage, j'ai réécrit le synopsis à la lueur de tout ce que j'avais appris de nouveau. Et j'ai rédigé mon scénario qui a été superbement mis en image par l'Axe peu de temps après.
Ça a été compliqué, Franck Giroud, de récupérer justement le témoignage de tous ces acteurs de cette histoire, de ces histoires ?
Pas tellement. Sur place, au début, durant les 3-4 premiers jours, j'étais un peu inquiet parce que je n'ai pas trouvé de gens qui acceptaient de me parler. Et à partir du moment où j'ai découvert le premier, il m'a aiguillé sur un second qui m'a dirigé vers deux ou trois autres et tout s'est enchaîné. Donc j'ai eu beaucoup de... pas mal de témoins qui parlaient très très volontiers. C'est extrêmement... étonnant pour nous parce que on a par exemple le cas de ce qui se passe quand on cherche à savoir ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Il y a même aujourd'hui encore une espèce d'animosité vis-à-vis des Allemands, une assimilation entre l'Allemand et le nazi. Et en Algérie, ça n'est pas du tout le cas. À une exception près, tous ont volontiers parlé, alors que je suis allé en Algérie avec mon père, puisqu'au dernier moment, il a accepté de m'accompagner. Donc, ces gens-là se retrouvaient face à quelqu'un qui avait combattu dans le camp adverse. Et ils acceptaient quand même volontiers de parler. Il y a même des moments un peu surréalistes où je suis tombé sur un officier du FLN qui a discuté de problèmes très techniques avec mon père, qui lui demandait par exemple, mais quand vous nous tendiez une embuscade, que les hélicoptères arrivaient tout de suite après, on ne vous trouvait jamais, comment ça se fait? Bon, il expliquait par quel biais ils échappaient aux recherches, il est rentré chez lui. Ce gars-là était devenu entrepreneur de travaux publics et il nous avait amené chez lui, il nous a montré des photos. Un autre était restaurateur, il nous a offert à manger. Enfin, c'était quelque chose d'assez tout à fait étonnant. Il n'y avait pas de haine, ils avaient dissocié totalement le français d'aujourd'hui et les gens qui les avaient fait souffrir à l'époque, alors que parfois on est tombé sur l'un d'eux qui nous racontait dans le détail, c'était assez terrible, la façon dont il avait été torturé par les Français. C'est-à-dire peut-être des compagnons de mon père qui combattaient à cette époque-là. Et leur réaction, c'était, mais bon, vous étiez appelé, donc vous étiez obligé d'être là, sinon vous auriez fini en forteresse, donc c'est pas votre faute. Ils avaient, en quelque sorte, pas du tout oublié, mais pardonné.
Franck Giroud, dès le début de la bande dessinée, vous plantez un décor qu'on n'attend pas forcément. C'est vrai, quand on pense à l'Algérie, on pense évidemment à un pays chaud. Or, la BD s'ouvre sur quelque chose qui brise complètement cette idée, puisqu'on est dans un village de montagne, de Kabylie. On a des véhicules tout-terrain qui sont garés sur des coulées de neige. Et on a un soldat, dès les premières bulles, qui dit « Je t'en foutrais, moi, la douceur kabyle, Dieu s'te caillante ». Évidemment, on a là un contexte qui est très particulier, parce qu'on imagine mal que dans ces régions, il peut faire extrêmement froid. Et la guerre y a été particulièrement dure parce que les conditions étaient particulièrement difficiles dans cet environnement-là.
C'est vrai que quand on pense à l'Algérie et à la guerre d'Algérie, on a en tête des films comme RAS ou Avoir 20 ans dans les Aurès qui décrivent un climat très chaud, la poussière, le soleil. Alors que, à travers les témoignages que j'ai recueillis, j'avais cette omniprésence de la crainte du froid. Le froid lui-même, le froid qui devenait encore plus terrible quand les soldats avaient subi une averse, avaient les vêtements mouillés qui se glaçaient. Et je voulais à la fois que cette crainte du froid, cette omniprésence du froid soit présente, et également je voulais couper avec cette tradition de l'Algérie désert, et d'autant plus que la guerre d'Algérie était particulièrement violente dans la Kabylie et dans les Aurès. Les Aurès correspondent davantage à l'idée qu'on se fait des paysages arides, mais la Kabylie, c'est quand même la montagne, c'est quand même le lieu par excellence dans lequel se réfugient les maquisards. C'est donc là qu'ont eu lieu des combats parmi les plus terribles. Et du mois d'octobre, fin octobre au mois de fin mars, c'est le froid qui règne et non pas la chaleur. Et donc c'était important pour moi à la fois de couper avec ce qui avait déjà été fait et de montrer une réalité souvent occultés.
Mmh. Oui, il y a le froid et puis il y a aussi cette difficulté aussi pour le coup pour les soldats. C'est-à-dire que bien sûr, dans cet environnement, les villages, on ne les voit pas arriver. Tout ça se dissimule dans le paysage de sorte qu'on découvre ces villages et du coup l'ennemi qu'on imagine derrière de manière assez brusque, assez inattendue. Il y a peut-être un caractère particulièrement angoissant avec ce type d'environnement montagnard.
Évidemment, la peur est beaucoup plus présente en montagne que dans le désert. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le FLN et l'ALN, son roi armé, avait surtout basé sa résistance là plutôt que dans des plaines largement dégagées qui auraient donné un avantage incontestable à une armée de métier, accompagnée avec tout l'arsenal technologique dont disposait l'armée française à l'époque. Mmh. Tandis que là, en effet, à chaque pas qu'effectuait un militaire dans la montagne, le danger était là. Et évidemment, dans le récit, je joue pas mal avec ça, avec cette peur omniprésente qui amène d'ailleurs les soldats à des réactions viscérales qui peuvent être catastrophiques.
Merci beaucoup Franck Giroud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre BD avec l'axe évidemment qui assure le dessin, Azraïen, et puis un grand merci à Jean Radvani. Vous avez vu, on finit avec des chants caucasiens là pour le coup. Hein, voilà. Et puis à vous Christophe Gauchon d'avoir été avec nous. L'Atlas des montagnes, l'Atlas géopolitique du Caucase, mais aussi Caucase, le grand jeu des influences. Toutes ces références, bien sûr, on peut le retrouver sur les sites internet de France Culture.